La journée du lendemain fut encore plus pénible. Tout en nettoyant les fusils dont les pièces étaient étalées sur la table, l'oncle Jules commença le récit de ses épopées cinégétiques. Il disait que dans son Roussillon natal, à travers les vignes et les pinèdes, il avait abattu des dizaines de lièvres, des centaines de perdrix, des milliers de lapins, sans parler des pièces rares. Un soir, je rentrais bredouille, et j'étais furieux, car j'avais manqué deux lièvres coup sur coup. « Pourquoi ?» dit Paul, la bouche ouverte et les yeux ronds. « Je n'en sais fichre rien. Le fait est que j'étais honteux et découragé. Mais en sortant du bosquet de Taps, j'entre dans la vigne de Rouquayrol, et que vois-je ?»« Oui, que vois-je ? » dit Paul, d'un air d'angoisse. Je m'écriai, « Une Bartavelle !»« Non, dit mon oncle, ça ne volait pas, et j'étais bien plus gros. »« Que vois-je » disais-je. « un blaireau énorme, qui avait déjà dévassé toute une rangée de raisins de table. J'épaule, je tire, c'était toujours la même chose, et pourtant toujours nouveau. » L'oncle tirait, puis par précaution il doublait, et l'animal foudroyé s'ajoutait à la liste interminable des victimes. Mon père écoutait ces récits glorieux, mais il ne disait rien. Sagement, comme un apprenti, il ramenait le canon de son fusil avec une brosse ronde, fixé au bout d'une longue baguette, pendant que je polissais mélancoliquement la gâchette et le pontet. À midi, les armes furent remontées, huilées, astiquées, et l'oncle Jules déclara « On les essaiera cet après-midi ». Le feuilleton de ses exploits continua pendant tout le repas et s'étendit jusqu'aux Pyrénées pour le récit d'une chasse aux chamois. Je prends ma lorgnette et que vois-je ? Paul en a oublié de manger, si bien que ma mère et ma tante, après la mort de deux chamois, prièrent le récitant d'arrêter là son épopée, ce qui parut le flatter grandement. Je profitai de cet arrêt pour introduire adroitement une question personnelle. Depuis le début des préparatifs, je n'avais jamais douté que je serais admis à suivre les chasseurs, mais ni mon père ni mon oncle ne l'avaient dit expressément, et je n'avais jamais osé poser la question, par crainte d'un refus catégorique, c'est pourquoi je pris un biais. « Et le chien, dis-je, est-ce qu'il ne vous faudra pas un chien ?»« Il serait bon d'en avoir un, dit l'oncle, mais comment nous procurer un chien dressé »«
Est-ce qu'il n'y en a pas chez les marchands ?»«
Oui, dit mon père, mais ça vaut au moins 50 francs. »« C'est de la folie, s'écria ma mère. » « Oh que non, dit l'oncle, et si un bon chien ne valait que 50 francs, croyez bien que je n'hésiterai pas. Mais à ce prix-là, vous n'aurez qu'un bâtard quelconque qui vous lâchera la piste d'un lièvre pour vous conduire au trou d'un rat. Un chien dressé, ça vaut dans les 80 francs, et ça peut aller jusqu'à 500. » Et puis, dit ma tante, qu'est-ce que nous en ferions après la chasse ? Après la chasse, il faudrait le revendre à moitié prix. Et d'ailleurs, ajouta l'oncle, il est très dangereux d'entretenir un chien dans la maison des bébés. C'est vrai, dit Paul, il pouvait manger le petit cousin. Je ne crois pas, mais il pourrait, sans le vouloir, lui donner des maladies. Une angine, s'écria Paul, moi je sais ce que c'est. Mais moi ce n'est pas un chien, c'est le courant d'air. Je n'insistais pas, il n'y aurait pas de chien. C'est donc qu'il comptait sur moi pour retrouver le gibier abattu. On ne l'avait pas dit, mais c'était évidemment sous-entendu. Il n'était pas nécessaire d'obtenir une promesse solennelle, surtout devant Paul, qui avait exprimé son intention de suivre la chasse de loin, avec du coton dans les oreilles, prétention insoutenable qui eût pu faire grand tort aux miennes. Je me tus donc prudemment.